Eureka, c'est l'été.
Mais avant cela, Hélène Maquet poursuit ses conversations via note vocale WhatsApp qu'elle a entamée sur plusieurs semaines avec des chercheurs belges. Aujourd'hui, échange avec Philippe Barret. Il est agronome et professeur d'agroécologie à l'UC Louvain.
Voilà, je vous envoie un premier message.
C'est difficile de répondre à cette question.
Et voici donc ma réponse.
Le monde après. L'épidémie que nous sommes en train de vivre va-t-elle marquer une rupture ? Y aura-t-il un monde d'après ? Pendant le confinement, on a beaucoup parlé de notre alimentation, du retour au fourneau, à l'alimentation locale. Alors je me suis dit que ça valait la peine de discuter avec quelqu'un qui réfléchit au modèle agricole qui sous-tend notre alimentation. Philippe Barret est agronome, notamment professeur d'agroécologie à l'UC Louvain. Quand je lui ai demandé s'il y aurait un monde d'après, son premier message m'a franchement désarçonné.
Le monde d'après, on y est entré à la fin du XXe siècle.
Pour Philippe Barret, la rupture, la transition, le passage d'un monde à l'autre aurait donc eu lieu il y a bien longtemps.
Le XXe siècle, c'est le monde d'après. C'est le monde d'après une croyance dans la croissance, une croyance dans la maîtrise de la nature. Et donc la crise que nous venons de vivre, en fait, elle rend visible ces limites du monde dans lequel nous sommes déjà entrés depuis plus d'un siècle.
Pour Philippe Barret, il y a donc plus d'un siècle que l'être humain a atteint les limites du monde dans lequel il vit.
Les limites du monde dans lequel nous vivons, ce sont les limites de la planète. C'est-à-dire que cette planète, elle est en équilibre. Et si on la maltraite, si on change le climat, si on détruit la biodiversité, on risque de perdre cet équilibre. Alors cet équilibre, on ne le comprend pas tout à fait. On mesure les conséquences de nos actes en voyant qu'on n'arrive plus à maîtriser en fait certains processus.
Donc, nous vivons dans un système qui doit être en équilibre, dont nous ne comprenons pas tout, mais si quelque chose bouge, nous en ressentons l'effet. Est-ce que le Covid, alors, est un de ces effets ?
Le Covid, c'est un exemple d'un processus qui s'est emballé, qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'a pas compris, et pour lequel on n'a pas spécialement de solution. Par exemple, moi, je ne pense pas que le vaccin, c'est une solution contre le Covid, parce que le Covid, c'est un problème d'un système en déséquilibre, et ce n'est pas simplement en mettant un petit sparadrap de vaccin qu'on va résoudre ce problème, qu'on va ramener l'équilibre. Et donc, tout le défi, c'est de trouver une autre relation avec ce que certains appellent la nature, que moi, je préférerais appeler les équilibres planétaires. Et cette nouvelle relation, elle implique finalement d'être plutôt dans l'alliance que dans la maîtrise. Plutôt se dire qu'avec la nature, il faut chercher des compromis, plutôt que de dire que la nature, c'est quelque chose qu'on peut dominer, qu'on peut maîtriser.
J'entends donc bien qu'il faut percevoir le monde en termes de système en équilibre, que le Covid est le résultat d'un déséquilibre. Mais je me demande, est-ce que Philippe Barret, lui, l'agronome, lui qui étudie les modèles d'agriculture qui sous-tendent notre alimentation, voit-il un lien entre les deux ? Est-ce qu'il y a des parallèles à tracer ? Dans sa réponse, il m'explique que l'alimentation est aussi faite de systèmes qui doivent trouver leur équilibre.
Les systèmes alimentaires que nous connaissons aujourd'hui sont basés sur une logique de globalisation et de standardisation. On mange à peu près la même chose sur toute la planète et on n'hésite pas à faire venir sur des très longues distances les graisses, les sucres, même les légumes. Et donc ce choix, aujourd'hui, il atteint une double limite. D'une part, il n'y a aucune raison de mettre en concurrence les différentes agricultures du monde, ce qui a pour le moment des conséquences très graves au niveau revenu à la fois pour les agriculteurs du Nord et les agriculteurs du Sud. Et deuxièmement, d'un point de vue environnemental, il est assez illogique finalement d'aller détruire des sols, d'aller détruire des ressources en eau en Amérique latine pour produire du soja qui vont nourrir des poulets ou des porcs en Flandre ou aux Pays-Bas ou au Danemark. Ces animaux étant ensuite vendus sur des marchés comme la Russie et parfois même plus loin.
Pour Philippe Barret, l'équilibre environnemental et économique a été rompu dans nos systèmes alimentaires. Alors je voulais savoir, à quoi ressemblerait un modèle en équilibre ?
La tendance est souvent de dire on va relocaliser autour d'une ville, même parfois autour d'un village, produire soi-même finalement ce dont on a besoin. Ce n'est pas spécialement la solution la plus pertinente, car si les différents types d'agriculture se sont répartis sur la planète, c'est aussi pour tirer avantage en fait de conditions d'environnement différentes. On ne fera jamais pousser des oliviers dans la banlieue de Bruxelles. Le plus logique, le plus cohérent pour moi, ce serait de choisir une échelle comme l'échelle européenne, qui assure à la fois une diversité de paysages, une diversité de compétences des agriculteurs et un caractère relativement local pour éviter des transports à trop longue distance.
Ça m'a fait penser à ce qu'on avait dit au plus fort de l'épidémie, quand on manquait de masques et de tests, quand les colis commandés en ligne prenaient des semaines à nous parvenir, quand la Chine, par exemple, tout à coup, a semblé beaucoup plus loin que ce qu'on percevait. L'échelle de nos échanges commerciaux semblait tout à coup gigantesque.
Aujourd'hui, avec la crise du Covid, on se rend compte que cette échelle doit faire partie d'une réflexion, doit faire l'objet d'une politique publique, de choix individuels aussi.
Tout l'enjeu, me dit Philippe Barret, sera de parvenir à changer d'échelle sans se replier sur soi. Là aussi, il faudra trouver un équilibre.
Y aura-t-il un monde d'après post-confinement, post-Covid, post-crise ? C'est la question qu'Hélène Maquet se pose dans ses séquences réalisées avec la complicité de Bawan Dean pour Eureka. C'est l'été, des séquences à retrouver sur notre plateforme Ovio et sur notre site internet. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. La première est sur Facebook et sur Twitter. Si vous voulez nous parler, ça se passe via le hashtag Matin1. Je vois par exemple aujourd'hui que notre invité du jour est la thématique de la cancel culture qu'on abordera dans Matin 1 aux alentours de 7h45, vous fait déjà beaucoup réagir. C'est très bien, c'est fait pour ça. Jean-Marc Skrell, il y a un accident avec deux camions sur la A54.
Oui, exactement. Nivelles-Charleroi, c'est au kilomètre 2, donc à hauteur de Petit-Reux. Le passage est vraiment très difficile. Là, vous êtes ralenti, donc 15 minutes perdues déjà en direction de Charleroi. Notez aussi qu'il y a de l'hydrocarbure sur la chaussée. Donc appel à la prudence également. On vous tient informé par rapport à cet accident qui s'est produit il y a quelques minutes seulement. Et puis, autre accident sur le 40, Aix-la-Chapelle-Bruxelles, à hauteur de Charat, la bande de gauche est neutralisée. C'est en direction de Bruxelles.
Matin première, 6h-8h30.